commencer par le côté anecdotique pour me détendre un tout petit peu. Je reviendrai sur les questions plus sérieuses. Alors, Paul Volcker. Mais avant Paul Volcker, je vais vous parler de Larry Summers. Hein, il a choisi aussi Larry Summers, qui est un économiste. Et c'est quelqu'un que je n'aime vraiment pas. D'abord parce que il a vraiment contribué sous Clinton à beaucoup mettre en place les déréglementations et les innovations financières, mais parce que aussi Larry Summers a été le président de l'université de Harvard et que en tant que président de l'université de Harvard, il avait déjà commencé par offenser beaucoup les Afro-Américains et que un des plus anciens profs de Harvard afro-américain avait quitté, démissionné pour protester et était parti à Princeton. C'est pour vous dire qu'Obama n'a pas que des bonnes fréquentations. Et que la deuxième chose qu'il ait faite, mais là, on lui a fait sa peau, il a dû démissionner en tant que président de Harvard, il avait déclaré que les femmes ne pouvaient pas être aussi bonnes en mathématiques parce qu'elles étaient biologiquement pas faites pour les mathématiques. Alors, donc, il a dû démissionner ce monsieur de Harvard. Il a été président de Harvard pendant 5 ans et il a été sorti et remplacé par une femme. Aujourd'hui, président de Harvard. Ça me fait plaisir quand même. Hein? Ça, c'est là pour la petite anecdote. C'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Donc, Obama, malheureusement, n'a pas que des bonnes fréquentations. Donc, à part Larry Summers, il y a Paul Volcker qui est appelé pour présider le conseil des économistes de la Maison Blanche. Alors Paul Volcker, en 79, quand il arrive à la Réserve fédérale, il monte les taux d'intérêt et tout de suite après, ben, il se passe, les taux d'intérêt vont augmenter énormément, ils vont passer jusqu'à 2 chiffres, 18%, hein, et ça va augmenter la dette des pays endettés de façon tellement importante. Et en même temps, c'est là où vont commencer à être prises les mesures qui vont libéraliser, comme je disais tout à l'heure, complètement la finance, hein, la libre circulation des capitaux. Alors évidemment, je dis ça sur le plan un petit peu anecdotique, parce que moi je ne crois pas que c'est une personne, évidemment, qui est responsable de quoi que ce soit. Je dis tout simplement que ce sont de mauvaises fréquentations. Et il faut rajouter un troisième larron à ces deux compères-là, qui est Rubin, hein, Robert Rubin, qui a été aussi dans ces histoires-là. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il remet au gouvernement, enfin pas au gouvernement, il s'entoure parmi ses conseillers exactement du même personnel politique dont s'était entouré non seulement Clinton, mais avant lui, des gens qui étaient là depuis longtemps et qui connaissent bien, qui ont complètement servi à mettre sur pied ce système de néolibéralisme financier. Hein, donc, je ne suis pas très contente de voir que ce sont ces personnages-là dont ils s'inspirent. Et je pense que ça, c'est aussi pour mettre en garde sur les illusions qu'on peut avoir à un moment donné, parce que c'est vrai que politiquement, l'élection d'Obama a eu une signification pour des gens, mais c'est ça, son élection qui avait une signification et pas le personnage lui-même. Hein. C'est plus les votes qu'il y a eu pour lui qui avaient un sens. Hein. Donc pour en revenir, donc je disais que c'est pas, à mon avis, c'est pas une personne qui a un système. Et vous avez tout à fait raison, je vais enchaîner sur l'autre question. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il ne s'agit pas de replâtrer le système. Il ne s'agit pas de reculer pour mieux sauter. À mon avis, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une crise du système. Et donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut changer de système. Alors, après, c'est la question, elle n'est pas de dire, l'idée ici n'était pas de venir avec un catalogue de revendications ou de réponses faites et de vous dire, bah, écoutez, moi j'ai réfléchi dans mon coin et voilà, j'ai des propositions à vous faire et puis la première, la dixième, la trentième, la quarantième. Je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de moraliser le système parce que le système n'est pas moral. ce système-là. Donc ça, on est clair là-dessus. Il ne s'agit pas de replâtrer les choses. Il ne s'agit pas de dire simplement il faut telle ou telle petite mesure pour essayer de faire mieux fonctionner ce système-là. Je crois que c'est la logique du néolibéralisme, c'est cette logique de rentabilité financière qu'il faut mettre en échec et construire autre chose. Autre chose, alors après la question elle est ouverte sur quel est le monde que nous voulons construire. Et moi je mets en garde de venir en disant ben voilà, on a des solutions toutes faites. Moi je crois qu'il y a une série de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord parce que ça correspond à des besoins sociaux, économiques. Et je pense que c'est très clair qu'il faut dire que ce système a généré plus d'inégalités que jamais. Et que pour autant, et qu'il faut combattre ces inégalités-là, pas seulement les inégalités entre pays, pas seulement les inégalités entre classes, mais même des inégalités parmi les hommes et les femmes, les inégalités entre les femmes elles-mêmes, ainsi de suite. Et puis ensuite, il faut regarder, il faut se mettre au boulot, il faut regarder concrètement. Et moi, l'idée que j'avance souvent dans les réunions publiques, c'est de dire que, par exemple, quand on parle du... J'ai fait une autre réunion dans un monde, dans une ville plus rurale, une ville rurale, et puis donc les paysans, les personnes, les agriculteurs qui avaient participé à plein de choses disaient, mais est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des agriculteurs, on ne peut pas s'inspirer de telle et telle chose, est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose par rapport aux banques? Et moi, je crois que ce sont les usagers, les citoyens, les gens qui participent, et bien entendu moi comme quelqu'un d'autre, qui doivent discuter et qui sont les mieux placés pour dire concrètement comment il faut faire. On peut avancer un certain nombre d'idées, mais il faut ensuite que ce soit le fruit d'un débat collectif, démocratique, citoyen, qui dise, parce qu'il n'y a pas des gens qui arrivent comme ça, avec des idées toutes faites, pour dire voilà ce que vous devez faire. Non. Je veux dire, ça ne peut être que le fruit d'une élaboration collective, discutée, ensemble. Et ça, c'est, je dis bien collective, et quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas faire des choses aussi chacun à notre échelle. Je rebondis là. Chacun à notre échelle. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment que je ne pense pas que le vote, quand il faut changer un système aussi fort, un système qui nous a imposé des choses vraiment très graves, dans tous les domaines, je ne pense pas que le vote, encore que bien sûr il faut voter, c'est un acte citoyen, mais je ne pense pas que le vote va suffire pour changer ce système-là. Donc moi je pense, je crois plutôt dans l'action collective, mais tout en croyant dans l'action collective, je crois que ça n'enlève pas la nécessité aussi d'agir individuellement, et aussi d'agir, pas seulement individuellement, mais à l'échelle internationale, et ça correspond et ça fait écho à beaucoup de choses importantes. Alors, c'est pas pour mettre l'attaque en avant, mais... Au niveau des attaques d'Europe, on s'était réunis à un moment donné pour dire voilà quelles sont les choses qu'on peut envisager en commun et qu'on peut faire ensemble. Mais il n'y a pas que attaque. Moi je dis aujourd'hui, et je le dis vraiment très clairement et je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, y compris au sein d'attaque, je dis que si aujourd'hui on n'est pas en capacité de nouer des liens avec par exemple des citoyens américains qui veulent changer aussi le monde, eh bien moi je crois qu'on est mal parti. Hein? Parce que si ce n'est pas, si aux États-Unis, au sein même de la citadelle, on n'est pas, il n'y a pas des gens qui vont dire mais où est-ce qu'on va et pourquoi on va vers ça, il n'y a pas de raison que la logique financière nous enlève nos vies et nos besoins. Alors si on n'est pas capable de faire ça et de faire des liens avec des citoyens américains comme avec des citoyens sud-américains ou d'autres Européens, alors on est mal parti, on ne fera pas grand-chose. Hein? Donc ceci, je crois qu'il faut faire des choses, je crois qu'il faut faire des réunions, je crois qu'il faut discuter, je crois qu'il faut convaincre les gens. Et surtout, moi je crois que ce qui est vraiment très bien dans cette période, alors que je le disais tout à l'heure, c'est une période difficile, c'est une période où personne ne doit se réjouir de voir le système s'effondrer, parce que je répète encore une fois, quand il s'effondre, il y a des gens en dessous. Et les gens en dessous, c'est des gens comme vous et moi, et c'est nous qui payons le prix. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir en disant, ben nous, on était contre ce système-là, et ben c'est bien fait pour leur gueule, qui s'écroule, nous, on s'enlève les mains. Non, pas du tout, parce que qui paye le prix? Ben, les gens qui payent le prix, c'est des gens comme vous et moi, absolument, c'est nous tous qui payons le prix. Donc évidemment, il faut changer le système, mais il y a une chose que je disais tout à l'heure, c'est dans cette situation-là, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement ouverts aux idées, et il y a des tas de gens qui viennent dans les réunions et qui font des propositions, et qui disent des choses, moi, qui me laissent vraiment époustouflée, parce que j'ai quand même l'impression d'être radical, de venir avec des idées vraiment très avancées et très claires, et je me fais à chaque fois battre à ma gauche par des gens qui me disent, mais écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que... Si, y a beaucoup de gens qui sont très très ouverts, aujourd'hui, qui écoutent et qui ont des gens qui ont des idées aussi, qui avancent des idées et avec qui on peut travailler et constituer des forces vives pour essayer de changer les choses. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et rarement, on a eu des périodes aussi propices. Alors, je ne dis pas ça parce que dans la presse, on croirait que personne n'a jamais été néolibéral, qu'ils ont toujours été tous contre le néolibéralisme, qu'ils ont toujours pensé que le système il était fou, que la logique financière était dégueulasse. Ça, il suffit d'ouvrir les journaux et d'écouter les médias et à longueur de jour, on dirait que tout le monde était à TAC avant. Hein, mais bon, d'accord. Peu importe, c'est pas ça la question. Ça ne fait que traduire aujourd'hui un rapport de force et ce rapport de force aujourd'hui, en tout cas dans les réunions et à la base, ce rapport de force aujourd'hui, il nous est propice. Il est propice pour changer les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord et qui se rendent compte que quand on leur a dit que la bourse et ce qui se passait sur la bourse, ça les intéressait, c'était bien pour eux, qu'ils allaient se faire une petite fortune comme ça, que oui, bien sûr, eux, ils partaient de rien, mais que, ma foi, il suffisait d'être un peu jeune, moderne et intelligent et qu'ils allaient y arriver, ben, ces gens-là, ils s'aperçoivent que non, que leur intérêt... Eux, en tant que salariés, par exemple, parce que beaucoup de ces gens étaient salariés, on leur a fait croire que l'actionnariat, ça faisait d'eux des actionnaires, des riches, des modernes, des gens puissants. Et bien, ces gens-là, ils s'aperçoivent que non, que ça ne change rien, qu'il y a toujours le capital et le travail, et qu'on ne va pas devenir schizophrène à vouloir être les deux en même temps, qu'il y a deux camps et qu'eux, ils sont d'un camp et pas dans l'autre. Et moi, je trouve que c'est une période qui permet de clarifier beaucoup de choses et beaucoup de gens comprennent que leur intérêt n'est pas dans la bourse, que leur intérêt il est beaucoup plus dans l'action collective aujourd'hui avec nous. Alors, à quoi je n'ai pas répondu, je crois avoir répondu.
Le protectionnisme. Et les contacts avec...
Oui. Alors, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'était les membres du gouvernement. On a eu des contacts. On a reçu des mails ou des lettres, par exemple, de gens qui nous disaient plus des gens du pays. Enfin, moi, ce que j'ai vu, hein, je ne veux pas dire parce que... Je n'ai pas vu d'autres trucs. Moi, j'ai vu des mails, par exemple, de gens du PS ou d'autres qui sont aussi un petit peu dans les ministères, mais qui ne sont pas forcément, par exemple, UMP. Hein. Mais on a reçu un certain nombre de mails qui disaient, ben oui, vous voyez, on reprend, par exemple, un pôle financier, certains travaux, ainsi de suite, on reprend vos idées, ou bien sur un petit peu sur les taxes globales ou les taxes... Bon. Un certain nombre d'idées peuvent être reprises et c'est tant mieux, c'est pas la question. Personne ne dit, c'est pas parce que l'idée, on l'a mise en avant, on l'a travaillée, que d'autres essayent de la reprendre. La question c'est est-ce que l'idée, elle est reprise et elle est, détournée de son but. Hein. L'idée pour nous, elle n'est pas, c'est vrai qu'on nous a dit que certaines personnes étaient intéressées par nos idées. Maintenant, la manière dont elle présente ces idées-là, à mon avis, ça les vide de leur sens. Hein? Dire aujourd'hui, par exemple, on nationalise mais c'est que temporaire et on va rendre les banques le plus rapidement possible, pour moi, c'est pas mon idée. C'est pas ça qu'on a voulu dire. Hein? C'est un peu ces exemples-là que j'ai en tête où on a repris un tout petit peu ce qu'on était en train de dire, mais pour le vider de son contenu. Hein. Et donc, voilà. Donc, ça sert uniquement à des buts démagogiques actuellement. Si c'est repris, tant mieux. Mais nous, on se battra pour expliquer clairement que c'est pas, on ne veut pas des nationalisations où on rend les banques et qu'elles se portent mieux, on ne veut pas des nationalisations qui soient partielles et en faisant semblant, on ne veut pas des titres qui ne valent rien en échange des liquidités où c'est le contribuable qui avance, non ? Ben, on se battra pour expliquer très clairement que c'est un détournement d'idées. Sur la question du protectionnisme, la question, elle n'est pas tellement, nous, on n'est pas pour un protectionnisme, c'est pas ça la question. La question, elle est d'éviter les spéculations, et donc c'est pour ça qu'on disait que ce qu'on voulait mettre, les taxes qu'on voulait mettre, c'est des taxes qui agiraient comme les grains de sable dans les roues, c'est-à-dire qui freineraient et qui enlèveraient cette volonté de spéculation. Qui découragerait donc la spéculation. Mais l'idée, elle n'était pas que chacun devait se replier. On est pour une autre mondialisation. On n'est pas pour un repli sur soi, un protectionnisme par rapport à ça. Donc tout dépend du contenu que vous mettez derrière. Hein, c'est ça la question. Je ne crois pas qu'on ait jamais avancé, qu'on était pour un protectionnisme ou pour fermer nos frontières et nous replier sur nous-mêmes. Mais je ne pense pas que c'est ça que vous voulez dire non plus.